étudier la continuité sur la Halakha de Shavuot. Alors, page 100. Voilà. On dit comme ça, on dit. On regarde. Imorli la Torah, page 100, Halakha Tetzain. En bas, page 100. En bas ici. Tu vois? Imorli la Torah, Farachan Asadibero, tu vas vivre au. Donc, Halakha de Shavuot toujours. Si celui qui monte à la Torah pour le passage du 10 commandements, s'il s'agit de son père ou de son rave, voire Medir Podam qui se lève pour leur honneur, et Amod Miyad Aymarota Mikrod Batora. D'accord? Il faut qu'il se lève tout de suite lorsqu'il monte à la Torah. Shari Dekar Nikar Dava, Shari Yato, et Nam Shuma Asadibirot. Quand il se lève pour son rave ou pour son père, il montre qu'il ne se lève pas que pour les 10 commandements. Et là, Mishum Kavod Aviv, Rabbo, il montre que s'il s'est levé, c'est pour honorer son père ou son rave. Bazien Kol Hachash, et là-dessus, il n'y a aucune mahloket. Parce qu'on a vu la semaine dernière, une mahloket s'il faut se lever ou pas se lever. Dans le cas où c'est son père ou si c'est son rave qui se lève, qui monte à la Torah, alors on se lève dès le début de la montée. Il n'y a aucun problème puisqu'il ne se lève pas pour les 10 commandements, il se lève pour respecter son père ou son rave.
Mais nous, on est connus dans tout le monde, dans toutes les nations, par les 10 commandements. Tu dis les Juifs,
par toute la Torah.
Les 10 commandements. Il va demander à l'ingoy, il va dire les Juifs, les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. N'importe quoi.
L'identité.
Voilà, il va dire.
Le problème, c'est que nous, on est d'accord. Le problème, c'est que si tu mets trop les 10 commandements en valeur, il y a ce que, comme il explique, la Gemara, le Rajba, le Rambam, il y a Torah Mat à minime. C'est qu'après, les hérétiques, ils vont parler aux Juifs qui ne connaissent pas trop la Torah, ils vont dire, tu sais quoi, là? Regardez les 10 commandements, c'est ce qui a marqué dans la Torah. Le reste, c'est inventé par Moshe. C'est pas divin. C'est ça qu'il faut faire attention à ne pas donner une trop grande importance aux 10 commandements par rapport aux autres parachutes de la Torah. C'est pour ça qu'on a enlevé de la Tfila le texte des 10 commandements, à cause de Torah Mat Aminim. Regardez. C'est le cas chez nous. Celui qui se trouve dans une synagogue où la communauté se lève, chaque créateur sa libéraux, durant les lectures des 10 commandements, comme on fait ici. Et si maintenant il veut rester assis, malgré que ce qu'il fait, c'est bien, mais il donne une mauvaise apparence. Il apparaît comme s'il dénigre les 10 commandements. Si maintenant nous on se lève et quelqu'un il vient, il ne connaît pas notre coutume, et lui il reste assis, il donne l'apparence comme quelqu'un qui est mésalzèle, qui se moque des 10 commandements. Donc comment il fait? Il ne peut pas rester assis. D'accord? Alors, en ce cas-là, il faut lui enseigner qu'il faudra se lever depuis le début de la montée. Donc, on lui enseignera qu'il ne se lève pas au moment des commandements, mais il se lève au début de la montée. Comme ça, il montre qu'il ne donne pas une plus grande importance aux 10 commandements par rapport aux autres passages de la Torah. La preuve, c'est qu'il s'est levé avant la lecture des 10 commandements. Mais ça, j'ai un zekap et trempé les minimes. Dans ce cas-là, les hérétiques, ils ne peuvent pas donner un argument. Ah, regardez, la Torah, toujours, vous l'écoutez assis. Et là, pour les 10 commandements, vous vous levez. Donc, vous voyez bien que ce qui compte, c'est les 10 commandements et pas le reste. Allez, shalom. Quand on se lève avant, on ne peut pas donner cet argument. Et aussi pour ceux qui font la vente aux enchères, il ne faut pas qu'ils mettent ça en valeur. C'est une paracha qui est très importante, c'est les 10 commandements. Non, c'est quoi, les autres, elles ne sont pas importantes. On va faire attention. On vend les 10 commandements. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, les gens, ils savent qu'on fait monter les prix. Mais appuyer dessus, à cause de ton Torah Mat Aminim, c'est pas bien. D'accord? Ok.
Une question. Souvent, on dit que celui qui prend les 10 commandements, il doit faire Shomer Shabbat à fond parce que c'est grave, il peut avoir des problèmes.
En général, quelqu'un qui monte à la Torah, il faut qu'il ne soit pas Mechalel Shabbat de pharisien.
Non, mais je crois que les 10 commandements, c'est très grave. Quoi.
Non, voilà, non. C'est une paracha comme une autre. Elles sont toutes aussi saintes l'une que l'autre.
Il y a donné un rave parce que c'est dans l'eau.
Mais c'est terre, non, c'est grave. Mais c'est, en tout cas, on peut le faire monter. Hein?
C'est pour ça qu'il a donné un rave. Moi, je crois qu'il a donné un rave parce que c'était un truc.
Alors, en général, on fait monter au rave. Le rave, pourquoi? Non, comme s'il n'y a pas de marloquette. Tout le monde se lève. Il n'y a pas de problème. On n'a pas un qui dit on peut se lever, on ne peut pas se lever. Alors, en faisant monter le rave, on se lève tous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de marque. C'est pour ça qu'on fait monter le rave.
La Torah qui est là, qui posait dans lui.
Voilà.
Pas lui.
Et comme ça, il n'y a pas de problème. Il faut se lever, il ne faut pas se lever. Là, on fait monter le rabbin. Tout le monde sait qu'on se lève. Il n'y a pas de marque là-dessus. Mais maintenant, celui, même qui n'a pas l'habitude de se lever, il va dans le synagogue où on se lève. Lui aussi, il faut qu'il se lève, mais il se lève au début de la montée. Mais en aucun cas, il peut rester assis tandis que tout le monde est debout. D'accord? Ça, il faut suivre le tibour. Il y a un autre truc parce qu'on dit l'autre, il ne faut pas jamais s'écarter du tibour. Ça, c'est une histoire au sujet de. Dans la Bible, on raconte que à l'époque, quand tu faisais les tachlonim, vous savez, après les tachlonim, il y a les David. Et David, à l'époque, les gens, ils se prosternaient carrément. Les filatapaïm. Vraiment, ils se prosternaient. D'accord? Ils se prosternaient, ils se mettaient à genoux, ils faisaient les David. Alors, nous, on ne fait pas. Nous, maintenant, les séfaradim, on le lit comme Saint Teilim. Même la main comme ça, on ne le fait plus. Mais Rav, qui était le Rav de la synagogue, Rav de la Gemara, d'accord? Lui, il se prosternait pas du tout. En tout cas, il se prosternait, sauf lui. Alors, on lui posait la question, c'est pourquoi toi, Rav, tu te prosternes pas, tu te mets pas à genoux pendant Nefilat HaPaim? Il dit non, parce que lui, à sa place, il y avait du pierre, il y avait des pierres. C'était un parterre de pierres. Et quand lui, il faisait Nefilat HaPaim, il se mettait pas simplement à genoux. Il faisait Pishut Yadayim Raglaim. Il étendait ses mains et ses pieds. Il était totalement prosterné. Et ça, c'est assourd de le faire sur de la pierre, en dehors du Beth Amikdash. D'accord? Donc, comme à sa place c'était de la pierre et que lui se prosternait totalement, il ne pouvait pas le faire. Et il dit la Gemara, ça c'est moutard. À part, quand tu ne fais pas comme le tzibour et tu as une raison pourquoi tu ne le fais pas, ça c'est pas interdit. Par contre, quand tu ne fais pas comme le tzibour mais tu n'as pas de raison, là c'est assourd.
C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas et qui a une raison.
Donc voilà, donc dans l'absolu, celui qui reste assis, étant donné que tout le monde est debout pendant les 10 commandements, il a une raison. Il n'y a pas le issur du frochet
de
tzibour.
Voilà.
Il a une raison, il a une raison. Valable, comme on l'a vu la semaine dernière. Par contre, comme il est méhazé, Kamezadzel, il donne l'apparence de se moquer des 10 commandements et du tzibour, parce qu'il faut qu'il se lève comme nous.
Mais si on est
Mais il se lève au début de la montée.
Si on est prévenu maintenant, on voit quelqu'un assis.
Toi, t'es prévenu, mais pas l'autre.
Non, nous, maintenant, là,
on se Ouais, mais méhazé. Imagine à ce moment-là, quelqu'un il prend une photo. Tout le monde est debout, il est assis. Il dit, qu'est-ce qu'il a?
Si c'est un rave, on comprend, quoi. Nous, on a compris. Si on voit un
Et
rave,
c'est pas beau.
Assis,
Moi, j'ai vu dans une synagogue où, effectivement, il se levait et il y avait deux, trois qui restaient assis. C'est vraiment Merhazé qui voit rave. C'est-à-dire qu'eux, ils sont plus intelligents que les autres. C'est pas beau. Il faut faire comme le Thibault. Dans ce cas-là, il se lève au début de la montée. Ouais, amen. Mais là, le problème, c'est que même ceux qui se lèvent, on a vu la semaine dernière, c'est pas réellement une taroute, c'est pas une erreur. Il y a des pauses Kim qui est autorisées. Rabougui, il est autorisé. Yotzit, il a Ezer, il défendait. Hein? Lui, il disait qu'il faut se lever. Il faut se lever. Bon, le Raouvadia, il n'est pas d'accord avec ça. Yotzit, il a Ezer, Raouvadia, Yosef, il n'est pas d'accord. Donc, nous, on se lève. Et celui qui n'a pas l'habitude, il se lève au début de la montée. Comme ça, il fait comme tout le monde. Il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas une partie qui est assise, une partie qui est debout. D'accord? Comme ça, il faut faire. Il dit qu'il faut se lever. Ouais. Alors, on va dire ça, je n'ai pas du tout d'accord avec ça. Mais bon, en tout cas, on se lève au début de la montée, il n'y a pas de problème.
Les rabbins tunisiens,
ils se
levaient.
Le pharisien, il prend la voiture dans la rue, il est pharisien. Non, non, dès qu'il fait une mélarka en public. Il porte un sac dans la rue, c'est Bepharessia. Il conduit la voiture ou il prend une cigarette dans la rue, il est Bepharessia. On ne fait pas monter à la Torah. Par contre, s'il y a un hachage de marloquette, il sait très bien que lui, il sent qu'on ne fait pas monter à la Torah parce qu'il prendrait Shabbat et ça peut faire des histoires à la synagogue, parce qu'alors on le fait monter durant les répétitions. D'accord? Il fait des histoires. On le fait monter pendant les répétitions pour lui faire plaisir. Alors regardez. Alors, Khaoudzaï. Noagim, Mishkoa, Aïsbe, Vestamim, Shoshanim, Vatek, Nesev. On a l'habitude de disperser des herbes odorantes et des fleurs à la synagogue et dans les maisons pour la fête, pour Chag Shavuot. Zerkal et Machamro Hazal, en souvenir de ce que nos maîtres ils nous ont enseigné, à chaque parole qu'Akosh Borourkou a prononcée, la terre elle s'est remplie d'herbes odorantes. Extraordinaire. Quand je vous montre, il sortait une parole, la terre elle se remplissait de fleurs et d'encens.
Est-ce qu'on peut qu'il y a des fleurs dans le parc ou c'est interdit?
Bien sûr, Guillaume.
Avant, là, maintenant.
Ah, avant pas, mais c'est pas toi. C'est à l'État, non, c'est du Guizel.
C'est du Guizel.
Non, tu ne veux pas les infos pour ça. Chez Neymar, comme il est écrit. Comme il est écrit, si tu as choisi notre forme en vert. Mais quand nous avons mis la fille d'un autre, vous avez accès au bâtiment, on a l'habitude de mettre des branches à la synagogue et dans les maisons. Les moches, Hazan, souvenir, pour allusionner de ce que nos maîtres ont dit, Pour dire qu'on se rappeler qu'à Shavuot, on est jugé sur les arbres, sur les productions des arbres fruitiers. D'accord ? Donc, au souvenir de ça, on fait maintenir des branches à la synagogue. Des branches pour décorer. Non, Pessah, non, c'est pas pour les arbres, Pessah. Pessah, c'est sur Dagan, sur les céréales. C'est sur les céréales. Soukot et Nidonim, ah la Maïm, non,
sur les
eaux.
Pessah,
tu es jugé. On est Nidonim sur Dagan, sur tout ce qui est la production des céréales,
le blé.
Dagan. Et sur les pérotes, c'est Shavuot. D'accord ?
Là, ce qu'on fait à Pessah, c'est pour les arbres, la bénédiction des nouveaux arbres.
Ah non, c'est Birkat Eilot, c'est autre chose. Parce que les arbres, ils sont renouvelés, c'est pour ça. Autre chose. Ah, à partir de Pessah, on a amené les bikourim. Totalement. Mais le jugement de la production agricole, le jugement des arbres, de la production des arbres, combien ils vont donner, sa production sera bonne ou pas, c'est à Shavuot. C'est pour ça qu'on amène les deux pains. D'accord, les deux pains, à l'époque, le blé, c'était un arbre. On amène les deux pains pour rappeler à Kadosh Baruch Hu que la production des fruits soit bonne. À l'époque de Adam Harishon.
À l'époque d'Amarichon, le blé était un arbre.
Ah oui, Anakili, c'était l'arbre qu'elle a mangé à Chava. Véavapi, Chiech, c'est Rabbi Oudé, il sait dans la. Véavapi, Chiech, Mekonokim, Aminakze. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec cette coutume. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec cette coutume de mettre des fleurs et des branches, s'il vous plaît, et à la synagogue. Malgré cela, Nahalem Israël, Minagam Torah. Malgré cela, c'est une bonne coutume. Amen. On peut garder cette coutume. En particulier que cette coutume-ci, elle est mentionnée dans le propos de nos maîtres. Donc on peut mettre, décorer la synagogue avec des branches d'arbres et des fleurs, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne met pas de sapin, etc. D'accord ? Parce que le Gaon de Vilna, c'est mentionné dans Mishnah Brura, à l'époque, on mettait réellement des arbres à la synagogue et dans les maisons. Pour souvenir du Nes qui s'est passé, et Mère Hazal et le Magen Avraham, justement, que chaque parole qu'un Kadosh Baruch Hu prononçait, la terre remplissait de rosées, d'arbres, et le Har Sinaï, il était avec de l'herbe, etc. D'accord ? Mais le Magen Avraham, il a eu cette coutume, puisque les Goïm se l'ont approprié durant leur fête. Donc maintenant, on ne fait plus maintenir d'arbres ou de sapins à la maison parce que les goïs, malheureusement, ils ont repris cette coutume. Donc, c'est à sourd, on ne le fait plus. D'accord ?
C'est ce qui est chinois.
Ce qui explique le goï de Bina. Regarde, on continue. On continue parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bikomot chinois gim. Amen. Par contre, dans les endroits où ils ont l'habitude, durant Shavuot, de distribuer des bessamim, après que le tzibour a commencé par le shamar, ce n'est pas une bonne coutume. À l'époque, il y avait l'habitude que le shamash distribuait des bessamim. Une fois qu'on a commencé par le shamar, ce n'est pas parce qu'après les gens ils se mettent à parler. Ah, merci beaucoup. Après le shamar, on n'a pas le droit de parler. Pendant la tfila. Non, durant Shavuot, Yom Tov. Après le shamar, le shamash, il vient, il donnait des bessamim. Ça, c'est sourd parce que ce n'est pas une bonne coutume parce que les gens ils vont commencer à parler. Non, c'est pas mouxé parce que tu peux en profiter, tu peux sentir, etc. Regardez, on n'a pas le droit de jeûner à Shavuot, ça c'est évident. On dit que le Ramak, il a étudié la Kabbalah le jour de Haga Shavuot, le Zohar, ou Arizal. Pourquoi celui qui a la possibilité d'étudier la Kabbalah, il étudie soit Idera, comme l'on fait durant la veillée, ou bien il lit le Zohar. C'est bien d'étudier un peu de Kabbalah à Shavuot. Celui qui a la possibilité. Zohar, c'est Kabbalah. D'accord ? Regardez. Noagim, l'Erkol, Marker, Haver, Shavuot. On a l'habitude de manger des mélactés à Shavuot, oui. Du lait ou du fromage. Verkay, Shoagim, l'Erkol, des vaches à Harab. Il y a ceux qui ont l'habitude aussi de manger du miel. Du miel et du lait. L'Irmoz, Amata, Doratelon, Shemshaï, des vaches à Harab. Parce qu'il y a une allusion au don de notre Torah, qu'elle est comparée au lait
et au miel.
Miel et au lait, plus. Qui donne des raisons pourquoi il faut manger du lait à Shavuot. Parce que au moment du don des 10 commandements ont été dévoilés à nos ancêtres tous toutes les parties de la Torah et des mitzvot. Or, moi, chez Kadir Rafsagan, comme Rav Saadia Gaon, il a écrit, par exemple, des mitzvot qui sont comme les autres chez la Torah, que durant les 10 commandements sont mis en allusion tous les commandements. Et donc, fois qu'ils ont reçu les 10 commandements, oui, c'est-à-dire toute la Torah, voilà, dès qu'ils sont sortis, dès qu'ils sont descendus de Mont Sinaï vers leur maison, ils n'ont plus trouvé de quoi manger. Pourquoi ? Parce que leur viande n'était pas cachère. Ils sont aussi, ils n'étaient pas cachères. Avant Matan Torah, ça ne posait pas de problème.
Ils
pouvaient manger ce qu'ils voulaient. D'accord ? Ils pouvaient manger de la viande qui est très fine. Ils pouvaient manger dans des sorciers qui ne sont pas cachères. Il n'y avait pas de problème. Ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient. Une fois qu'ils ont reçu la Torah, ce qui était chez eux à la maison, c'était plus cachère. Ils ont trouvé à manger quoi ? Ils ont trouvé à manger que des laitages. C'est du lait. Parce qu'une fois qu'ils ont reçu la Torah, pour manger de la viande, il faut une grande préparation. Il faut trouver un couteau bien aiguisé, bien vérifié, sans défaut, comme Dieu l'a ordonné. Il faut enlever les graisses interdites, il faut enlever le nerf sciatique. Il faut saler la viande, il faut nettoyer le sel. Il faut cuire la viande dans des ustensiles qui sont nouveaux, cachers. Parce que les ustensiles qu'ils avaient avant, durant les dernières 24 heures, ils ont utilisé des choses qui n'étaient pas cachères. Peut-être pas cachères. Il faut trouver la vaisselle. D'accord ? Donc c'est pour cela qu'ils étaient obligés de manger du laitage, parce qu'avec ça qui était caché après Matan Torah.
Il faut tomber dans la mer Rouge.
Donc en souvenir de ça, ils pouvaient manger que du laitage. Et en plus, sans cela, la Torah elle était donnée Shabbat. Vous ne pouvez pas cuisiner de la viande. Il n'y avait que du laitage à manger.
C'est le contraire de ce que tu viens de dire.
Pourquoi ?
On disait qu'on ne pouvait pas trouver de couteau aiguisé, donc ça veut dire qu'on pouvait.
Oui, Belavarki, il pouvait ni aiguiser. Non, il pouvait ni aiguiser. Non, c'est ce qu'il te dit. Non, Belavarki, sans toutes les raisons qu'on a données. Il ne pouvait pas aiguiser, il ne pouvait pas cuire. Sans ça, déjà, Shabbat ne pouvait pas manger de la viande, donc il n'y avait que de laitage.
Il ne peut pas traire la vache, Shabbat, dessus.
D'accord ?
Voilà. Bien sûr qu'on ne peut pas traire la vache.
C'est pareil. Ils avaient du lait déjà au frais.
Voilà, ils avaient du lait. Il y avait des.
Il y avait du fromage.
Ils avaient des petits Suisses.
Il y avait des yaourts au frigo.
Il restait l'odeur et le.
Et la fente de beurre.
C'est du fromage.
Voilà, Arkane, ils avaient du lait au frais. C'est pour ça qu'on mange du laitage en souvenir de ça. C'est l'esprit du Shabbura. Ou c'est faire Torah Tahaïm, Kadar Ta'am. Regardez dans Torah Tahaïm, il donne une autre raison. Une autre raison. Api Hagada. Regardez. Au moment où Kadar est venu pour donner la Torah, les anges nous ont accusés. Ils n'ont pas voulu. Reçoivent la Torah, qui reçoit les Kabbalah et la Torah à la soin, parce qu'eux voulaient recevoir la Torah, les anges. Ils ne voulaient pas que les hommes la reçoivent. Kadosh Baruch Hu leur dit, comment ça se fait ? À chaque fois, vous les accusez. Or, vous, à chaque fois, vous condamnez les hommes. Quand vous êtes parti rendre visite à Abraham, vous avez mangé de la viande et du lait. Vous n'êtes pas mieux que les hommes. Aussi, on peut vous trouver des reproches à vous faire. Or, voici que même un enfant, il ne mange pas de la viande et du lait en même temps. Et là, les anges, ils sont sortis dégoûtés. Déprimés. On dit, effectivement, nous ne sommes pas mieux que les hommes. Ils ont arrêté de nous accuser. C'est qu'on a l'habitude de manger du laitage au jour de Matan Torah. Une fois qu'on s'est nettoyé la bouche et qu'on a mangé un bout de pain et qu'on a bu de l'eau, on peut manger après de la viande. Pour montrer aux anges que nous sommes mieux qu'eux. Regardez-vous les anges, vous avez mangé du lait et de la viande. Or, nous, les hommes, nous sommes mieux que vous. Après avoir mangé du laitage, on se lave la bouche. Et après, on mange du lait. Nous sommes mieux que vous. C'est pour ça que nous sommes plus... On mérite plus à manger la viande. C'est pour ça que nous, on mérite plus à Torah que les autres.
Tu nous as dit que quand on prend un fromage dur, c'est pas pareil qu'un fromage...
Non, c'est-à-dire les Ashkenazim, ils attendent 6 heures ou 3 heures. Ça dépend s'ils ont mangé un fromage dur voilà, pour manger après de la viande. Pour nous, les séfaradim, selon le Maharal Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. Même si on a mangé un fromage dur, après s'être nettoyé la bouche, on peut manger de la viande. On n'a pas besoin d'attendre ni 3 heures ni 6 heures. Que pour les Ashkenazim qui a ça. D'accord ? Parce qu'eux, ils disent que les mêmes raisons que donnent Rambam et Rashi. C'est-à-dire que selon Rambam, on peut avoir des morceaux de fromage collés encore aux dents. D'accord ? Ou bien selon Rashi, effectivement, il y a encore des remontées, voilà. Des remontées, il y a encore la graisse du fromage qui reste dans la bouche et qui remonte. D'accord ? Mais pour les séfaradim, il n'y a pas de problème. D'accord ? On continue. Par contre, faire attention de ne manger du lait qu'après avoir attendu 6 heures après la viande. D'accord ? Birkat Torah Yaasé. Comme ça qu'il faut faire. Alors je vais expliquer.
En fait, c'est pas 6 heures, c'est 5 heures et
1
seconde.
Non, c'est 6 heures. Non, c'est 6 heures. 6 heures évolue. 6 heures évolue totalement. Regarde, je vais expliquer. Birkat Torah Yaasé. Je vais vous faire attention. Il ne faut pas suivre les poskim qui disent qu'à Shavuot on peut tolérer.
Ah bon?
Or la question ne se pose pas pour nous. Parce qu'on a l'habitude d'abord de manger le laitage. Et nous on mange la viande après. Donc il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures. D'où on avait déjà étudié plusieurs fois pourquoi est-ce qu'il faut attendre 6 heures. On a déjà vu ça.
Parce que les
rabbinis
disent souvent entre les repas, non, entre
raison, elle est comme cela. La raison, elle est comme cela. Il y a, dans la Gemara, comme ça rapidement, ce qu'on a déjà parlé, Marouk Bar, il dit que lui, il n'est pas comme son père. Son père, il attendait 24 heures entre la viande et le lait, mais lui, il attendait d'une seroda, d'un repas à un autre. Alors, c'est quoi un repas à un autre? Plusieurs explications. Rabbi Noutam, il dit c'est une heure. D'accord. Le Rambam, il dit c'est 6 heures. D'accord. Et les Tosfot, ils disent même pas besoin d'attendre. Dès que tu changes de table, dès que tu as fait Birkat Amazon, tu peux tout de suite manger après le lait. Alors, la Khal n'est pas comme cela. Et il y a plusieurs opinions. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Shulchan Aruch dit qu'il faut attendre 6 heures. Donc les Sépharadim, ils attendent 6 heures. Sans aucun problème, c'est 6 heures évolues. D'accord. Le Rambam, il dit comme 5 heures et demie. Donc pourquoi 5 heures et demie? Et parce que tout ce qui est Hatishara, la demi-heure, c'est comme si on est rentré déjà dans la nouvelle heure. D'accord. Donc le rabbin me dit 5h30. Alors nous, on attend 6h, mais dans un cas de force majeure, on peut attendre 5h30. Maintenant, vous allez voir des communautés, ils attendent 3h.
À Strasbourg.
D'où ça vient 3h?
D'où ça vient?
Alors le Shulchan Aruch, il dit 6h. Il dit le Péré Hadash. Ah, pourquoi 3h, il dit
quand on était jeunes en Tunisie, on attendait 1h30 pour les viandes blanches. Et
alors ça, normalement, il n'y a pas de rilou entre les deux.
Bon, on ne savait pas, mais bon. Regardez.
Hein?
On ne savait pas.
Et la rose, combien?
Il n'y a pas de... Non, mais quand on était petits, je ne sais pas si...
Regardez, Péré Hadash, il dit comme cela. Le Péré Hadash, il dit, quand le Shulchan Aruch, il dit 6h, c'est 6h selon la saison. D'accord? Or, en hiver, les journées sont plus courtes, et 6h, c'est 3h. D'accord, donc le Pirkei Hadash, il est en hiver, on peut attendre 3 heures. Alors, il n'est pas comme cela. C'est juste pour la culture, pour savoir de ses opinions. Voilà, d'accord. Et Rav David Pargo, il dit, puisque en hiver, le Pirkei Hadash, il autorise 3 heures, alors même en été, on peut autoriser 3 heures.
Ça, c'est pas
logique. Okay. Bah, maintenant, c'est de la culture générale, ça. Alarka, les Maasé, c'est ce qu'il dit Shulchan Aruch, c'est 6 heures. 6 heures pleines de 60 minutes, que ce soit en hiver, que ce soit en été. Un conseil pour retenir. D'accord. Voilà. Et on continue. D'accord. Mitzvah de manger de la viande rouge à Shavuot pour accomplir la mitzvah de Simchat Torah, d'être joyeux.
Donc la viande c'est mitzvah et le lait c'est minag.
Mais Hazak Baruch. Pour ça qu'il faut pas faire qu'un repas de lait et pas manger de la viande. Non. Non. On mange de lait pour la mitzvah.
Tu bourres le lait.
Alors tu manges un petit peu, tu manges un petit yaourt pour la mitzvah, et c'est tout.
On prend un petit déjeuner le matin.
Voilà, c'est tout. Après la veillée, tu manges un petit truc, voilà. Et après pour le repas, il faut de la viande. D'accord ? En tout cas, il y a une mitzvah de manger de la viande rouge. D'accord ? Parce qu'il y a deux... En simcha et la basa, il y a une simcha qu'avec de la viande. D'accord ? Il y a une marquette aussi entre le Magen Avram et le Rambam. Parce que en simcha, il y a le simcha uniquement en mangeant de la viande en buvant du vin. D'accord. Alors le Magen Avraham, il dit ça, c'était à l'époque où il y avait Beth Amikdash, où il se réjouissait en mangeant la viande des Shelamim, la viande des sacrifices. Mais le Rambam, il dit que même de nos jours où il n'y a plus de sacrifices, il y a une mitzvah de la Torah de manger de la viande à Yom Tov. Non, tiens, comme le Rambam. Et du vin aussi, toujours une mitzvah. Celui-ci qui ne supporte pas la viande rouge, il n'est pas la viande. Qu'elles sont de santé ou bien qu'elles sont de cacheroute, il ne trouve pas une cacheroute suffisamment valable pour manger de la viande. Voilà. Donc ça, il mangera du poulet, pas de problème. Aussi, il faut boire du vin. Par contre, il ne faut pas trop exagéré dans la viande et le vin. Aussi, pas parce que la fête et qu'on mange bien et qu'on boit bien et qu'on est avec les amis, avec les familles, on va commencer à avoir de la légèreté. Voilà. Et parce que de la légèreté, ça n'est pas de la simcha, c'est que de la oulélou, de la grossièreté. Or, la mitzvah, c'est la simcha, c'est pas la, la légèreté. Chez Barbouda et Oser, il barre chez moi, on parle d'une joie où il inclut là-dedans un service de Dieu. Katal, on parle du divrei Torah, ok, une simcha de mitzvah. Ok, ça, alors ça c'est bien, écoutez. Mitzvah et Samir, Tanachim, Verouilahem. Il faut aussi une mitzvah de réjouir les femmes aussi avec ce qu'elles aiment. C'est quoi? Des vêtements et des bijoux. Donc c'est bien avant la fête, un petit bijou ou un beau vêtement, comme ça la femme elle est contente durant la fête. Mais Tanachim, Verouilahem aussi, il y a une mitzvah de réjouir les enfants. Des cueillegosi, McDonald's, en leur donnant des cacahuètes, des pistaches, des bonbons.
Pas des cadeaux. D'accord. Pas des cadeaux.
Les enfants, non, les enfants, ils aiment bien les bonbons. Ah, par contre, ça, c'est bon à savoir également. On n'a pas le droit de danser ni de taper des mains durant Yom Tov.
Ah, comme Shabbat.
Alors bon, comme Shabbat. D'accord. Donc Shabbat, on n'a pas le droit de taper des mains, etc. C'est sourd. On n'a pas le droit de danser. Rachemetaken kilishir, gezera, te peur qui va. C'est une Gezera de Hakamim de l'époque de la Mishnah. Gezera qui va arriver, amener un instrument, et s'il est cassé, il va le réparer. Shabbat, c'est assour. Shabbat, c'est assour. Alors, c'est intéressant. Les Tosfot, ils disent, ils ont une tolérance sur le fait de danser. Les Tosfot, ils disent parce que c'est un hachash qui est trop rahoka. C'est une crainte qu'elle est trop éloignée. On va, parce qu'on va danser, on va amener un instrument qui va peut-être être cassé et qu'on va réparer. Pour ça, il dit le Tosfot qu'il y a une Kula. Et c'est vrai que dans Darkei Moshe, il ramène une tolérance. D'accord, une tolérance. Par contre, le Shulchan Aruch, il n'amène aucun Hilou, qui amène cette halakha, comme quoi, on n'a pas le droit ni de danser, ni de taper des mains de Yom Tov. Il ne fait pas de distinction, le Shulchan Aruch, entre leur époque et notre époque. Donc c'est toujours interdit. Pour les Sépharadim, c'est interdit de taper des mains et de danser.
C'est le fait de, d'accord, de, et c'est intéressant. Un son, c'est ça, de créer un son.
Un rythme. Un rythme, ça c'est un son. Par contre, taper des mains pour réveiller quelqu'un, à vos tailles, ça on a le droit. Taper le rythme et danser, c'est un son.
Avec un
chino, oui, tu pourrais. Un chino, il n'y a pas de problème.
Mais tu comme ça, si tu as l'habitude de taper comme ça, et que là tu tapes comme ça.
Non, parce que c'est le derrière de taper comme ça en général de tout le monde. Mais comme ça, c'est pas interdit. D'accord, mais vous allez voir chez les Ashkenazim, il y a une tolérance. Vous allez voir chez les Lubavitch, pour un oui, pour un non, ils dansent. Bon, c'est une tolérance qu'eux, ils ont, que nous, on n'a pas. Intéressant, chez les Lubavitch, ils se permettent de danser. C'est-à-dire que Shulchan Aruch Karav, le Shulchan Aruch de Rabbeinu Zalman, d'accord, lui, il interdit, hein, il interdit de, clairement, de taper des mains et de danser durant Yom Tov et Shabbat.
Mais c'est la simcha.
Donc, je ne sais pas sur quoi ils s'appuient, parce que leur Shulchan Aruch, à eux, leur interdit. Il y a un problème. En tout cas, pour nous, les Sépharadim, ni on chante, ni on danse. D'accord. Vechol Shekel, Chasso, Ishamesh, Birkin et Gina. Je vais avoir pour forte raison qu'elle n'a pas le droit de faire un instrument de musique. Je veux un instrument de musique. Birkin, Asso, la fête, Taïe, bon marché, Yom Tov, qui est Shmia, Biyom Tov, et Taïe, Jacques Jordan. Aussi, tu n'as pas le droit de mettre la stéréo pour écouter de la musique Yom Tov, c'est évident.
Quand quelqu'un annonce une bonne nouvelle, on chante Mazel Tov, Siman Tov.
Ouais, chante, hein, Siman Tov. Ok, mais on ne tape pas des mains. On ne tape pas des mains.
Des fois, des gens qui tapent des mains.
Il ne faut pas, ouais, parce qu'on est pris dans l'ambiance, on n'a pas le droit. Biyé, Shimhot. Hein? Alulu, ça remplace. Voilà. Pour ça, faut celui qui tolère d'allumer la stéréo pour écouter la musique, il faut l'empêcher, celui-là. Qui est dans la geste mort. Il n'a aucun rabbin sur qui s'appuyer. On est quand chez Ken, chez Assour, on l'a écrit sauf celui de Rue Copernic, mais on les écoute pas ceux-là. Mais quand chacun chasse les actes chérim, on n'a pas le droit d'enregistrer de la musique. La vloua est un. Ça c'est facile ça. Et là, il se fait Yom Tov derrière Moutarim, mais il faut se réjouir à Yom Tov avec des choses qui sont autorisées. Quand on est chorer Bappé, chez Otchibarob, puis on dit, mais je vais dire, chanter oralement, ça c'est une mitzvah. C'est bien.
C'est pour ça qu'on fait donc.
D'accord, donc on chante, c'est pas de problème, c'est la simcha. Et voilà. Regardez.
Tu peux faire la musique avec ta danse.
Bah oui, pourquoi pas.
Il y a un type qui fait de la musique, il fait
les mêmes. C'est le fils Aïtra qui fait ça aussi. Ouais, j'aime ça. Ça, c'est bien ce moutard.
Voilà, c'est autorisé.
C'est bien ça. Chanter oralement.
Chanter a cappella en fait.
Ça, il n'y a pas de problème. Regardez. Minat Narkon, Ikrod, Megillah, Trout, Barajewot, Belo, Berach. C'est une bonne coutume. Comme nous on fait, de lire route à Shavuot, sans Beracha, bien entendu, on lit route. Shavuot, Sibo, Sefara, parce que les Ashkenazim, ils lisent route, ils font la Beracha dessus. Comme il dit le Maharil et comme il dit le Gaon de Vilna. D'accord ? Ils font route avec Beracha.
De route, de la
Amikra Megillah. Amikra Megillah. Totalement.
Ils ont le Megillah en pot ?
Non, même pas. Ça, le problème, c'est qu'ils lisent dans un livre d'imprimerie. Dans un livre d'imprimerie, Megillah, Amikra Megillah, ils le font. Ils le font même à Tisha B'Av, ils font sur Ircha aussi. Sur Ircha, ils font avec Bracha aussi, les Ashkenazim. C'est pas grave, l'Aftara, on fait bien la Bracha dessus, tandis que c'est le livre d'imprimerie. D'accord ? Mais il y a un problème, parce que c'est vrai que, malgré que les Ashkenazim, ils le font, d'accord ? Le Darké Moshe, donc le Rama, le Rav des Ashkenazim, Rabbi Moshe Israelit Jatzal, d'accord, lui, il dit dans Shulchan Aruch, il dit dans le Haga que Minaga Olam, tout le monde le fait, chez l'Ashkenazim, mais lui, il dit c'est bien de ne pas le faire. Et dans Darké Moshe, il donne plusieurs explications pourquoi il faut lire la Megillah Rout sans Bracha. Et parmi les raisons qu'il amène, il dit parce qu'on ne le lit pas dans le parchemin. C'est une des raisons qu'il amène, le Darké Moshe. D'accord, mais en tout cas, chez l'Ashkenazim, ils le font. Donc il ne faut pas s'étonner sur les Ashkenazim, ils le font. Par contre, maintenant, quelqu'un va prier ses Ashkenaz à Shavuot et on le nomme comme Hazan. Et mince, il faut qu'il lise la Megillah Rout. Il fait la bracha ou pas? Il n'a pas le droit de faire la bracha Mikra Megillah. Il n'a pas le droit. Comme ça, il tranche le roi Ovadia.
C'est un autre qui
le fait. Il la lira quand même.
D'accord, hein? C'est un autre qui le fait, voilà. Et la Hamaka, il verra le Wikra. On prendra un Ashkenaz, que lui, il fera la bracha. Et lui, le Sépharadi, il la lira, mais sans bracha. D'accord ? Omikom, akom, ava, obirach, moti, otam, bedir, chouvad, abirach. Kam, akom, néanmoins, s'il a été envers et qu'il a fait la bracha, bien sûr, la hazor, ou le varer, et bien il a acquitté les Ashkenazim par sa bracha. Parce qu'il y a des opinions, je ne me rappelle plus le nom là. Il y a un qui dit, je vois si ça va me revenir, ça ne me revient pas comme ça. Un qui dit, puisque le Sépharadi, il n'a pas le droit de faire la bracha, puisque pour lui, c'est bracha les batala. Donc, quand il fait la bracha, c'est mitzvah abba barvera. C'est une mitzvah qu'il fait dans une avera. Donc, non. Donc, comme c'est mitzvah abba barvera, lorsqu'il fait la bracha pour les Ashkenazim, même les Ashkenazim, ils ne sont pas acquittés par sa bracha. C'est une opinion. Mais alors, on va dire au Seif, il dit, c'est pas chout que non. Lui, c'est bracha les batala, peut-être. Mais pour les Ashkenazim, ils sont acquittés. Donc, ils n'ont pas besoin de refaire la bracha. Ça, c'est autre chose. D'accord ? C'est intéressant à savoir, lorsque vous êtes invité dans une communauté qui font une bracha que nous, on n'a pas l'habitude, est-ce qu'on a le droit de la faire ou pas ? Il y a un grand. Ça, c'est un sujet à étudier bien. Ouais, ça prend une heure et demie à étudier.
C'est de la faire pour ne pas passer pour quelqu'un de bizarre.
Alors, il y a un problème. Dans ma circa Pissachim.
Déjà de répondre Amen.
Alors, répond Amen ou on répond pas Amen. Si des Ashkenazim, ils font Amikra Megillah, il ne faut pas répondre Amen.
Il y a autre chose qu'Amen, tu fais Amen.
La preuve, regardez. On avait étudié ça. Sur Mitzvah Tefilin. Les Ashkenazim, ils font la bracha sur la Tefilin de la tête. On dit que non, on ne le fait pas. Est-ce qu'on. Maintenant, je vais entendre un Ashkenaz qui fait la bracha à Mitzvah Tefilin. Je réponds Amen ou pas. On avait dit que le Pire Megadim, il dit qu'il ne faut pas répondre Amen. Tandis que Pire Megadim lui-même, c'était un Ashkenaz. Lui-même faisait la bracha. D'accord ? Et il dit, si on entend quelqu'un le faire, il ne faut pas répondre Amen. C'est-à-dire, même l'Ashkenazim, qu'eux, ils font la bracha, ils disent qu'il ne faut pas répondre Amen.
Pourquoi ils le font ?
D'accord ? Il dit pourquoi ? Parce que Amen Yetoma, c'est pire qu'une bracha al-Batala. Répondre Amen à une bracha en vain, c'est pire que faire la bracha en vain. Haïdouche. D'accord ? Pour ça qu'on ne répond pas Amen. Il dit le Rambam, tout celui qui répond Amen à une bracha, qu'elle est Bessafek ou qu'elle est les Batala, Atid, Iden et Adin, il donnera des comptes plus tard sur ce Amen.
Pour eux, elle n'est pas les Batala.
Alors, il y a un hachage qu'elle soit les Batala. Donc, eux, ils le font parce que le Minag, il s'est répondu. Maintenant, répondre Amen, prendre le risque de faire un Amen qui s'appelle Yétoma orphelin, qui est tellement grave, ils ne le prennent pas le compte risque. D'accord ? Donc, il ne faut pas répondre Amen. Ah, là, tu réponds, parce que je ne vais pas voir ce Batala. Ce n'est pas un problème, parce que là, il a parlé, il doit le faire. Mais Akarvin, il doit le faire. D'accord ? C'est intéressant, juste encore si on a un petit 5 minutes, regardez. Il y a une preuve qui est intéressante dans Maseret Psahim. On raconte que qui c'est Ravashi, il était invité dans un endroit, Shabbat après-midi. Et on lui a dit, Rav, faites Kiddush Araba, faites-nous le Kiddush. Et lui, il ne savait pas c'est quoi Kiddush Araba. Faire Kiddush samedi après-midi, il ne savait pas c'était quoi. Vous connaissez vendredi soir, mais faire kiddush samedi après-midi, ça ne veut pas. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait bourrer de péri à Geffen, tout doucement. Il allait voir comment les gens allaient réagir. Et si les gens, ils boivent, c'est-à-dire que le kiddush, c'est que bourrer de péri à Geffen. S'ils ne boivent pas, c'est-à-dire qu'il faut faire le kiddush le vendredi soir, une deuxième fois l'après-midi. Comme ça, il explique au Rashbam. Dès qu'il a dit bourrer de péri à Geffen, il a vu un vieux qui a pris le verre de vin et qui l'a bu. Il a compris que le kiddush samedi après-midi, c'est que bourrer de péri à Geffen. De là, on apprend quoi ? Il y en a qui veulent prouver de là que même si chez Ravashi, il ne récite pas le Kiddush en entier samedi après-midi, puisqu'il était dans une communauté qui récitait le Kiddush le vendredi soir samedi après-midi, il devait faire aussi comme eux. La preuve, il était prêt à le faire. D'accord ? Donc c'est une preuve que quand tu es dans une communauté qui font une bracha que toi, tu n'as pas l'habitude de faire, tu dois faire comme eux.
C'est ça que je disais tout à l'heure.
Mais on casse. Ça, on casse. Comment on casse ? Comment on casse ? On dit non, parce que Ravashi... Et peut-être que ces gens-là, ils n'ont pas fait kiddush vendredi soir.
Du tout.
Tu te sauves. Et donc, quand tu ne fais pas kiddush vendredi soir, il faut le refaire samedi midi. Donc, il pensait, même si lui, il a fait kiddush vendredi soir, pour les acquitter, il a le droit de le refaire pour eux. Pour ça qu'il était prêt à faire kiddush samedi midi pour les acquitter. Mais ça veut pas. Donc, de là, tu ne peux pas prouver. Tu ne peux pas prouver que si tu es dans un endroit qui font une bracha que tu n'as pas l'habitude, tu as le droit de faire. Non. Lui, il était prêt à le faire. Parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas fait vendredi soir.
Ouais,
juste pour ça.
Il a pensé techniquement, parce qu'en fait, il s'est dit comme ça.
Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pensé, mais ce qu'il m'a fait discuter là-dessus.
C'est ça, parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on est dans une. Quand on est dans une communauté qui n'est pas la nôtre, en général, par respect pour la communauté.
Et c'est Brachal Batala, on ne fait pas. Alors, Brachot, on ne les fait pas. Regardez. Assou est un biome et trois Shavuot. Le lendemain de Shavuot, il est interdit de jeûner. Mais heureusement, aussi, on ne fait pas d'oraison funèbre. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas travailler le lendemain de fête. C'est partie des choses qui sont de base autorisées, mais que les autres ont rendu interdit, que tu n'as pas le droit d'autoriser. Bon, à Paris, on travaille le lendemain de fête, hein, je vous rassure. On ne fait pas le pont là, vendredi.
En Israël, ils le font.
Ah bon ?
Hein ? C'est le travail que tu fais 5 jours.
Ouais. Oui, si tu travailles dans un... C'est quoi, simple dans un bureau. Non, si, on a, non. Si personne ne travaille, tu ne vas pas au bureau. Tu ne vas pas au bureau. Tu vas chez toi. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Nous, on tolère de travailler le lendemain de fête. On a l'habitude de manger beaucoup. Enfin, de manger plus que d'habitude le lendemain de fête. D'accord ? Vendredi, c'est bien de manger un peu plus que d'habitude. Toujours le lendemain de Yom Tov, il y a une mitzvah de manger. Ça s'appelle Isru Hag. D'accord ? On dit dans la Gemara, dans Hagiga, tout celui qui multiplie la consommation, tout celui qui mange plus le lendemain de fête, Isru Hag, Akosh Baruch Hu, il considère qu'on a construit à Mizbéar et qu'on a offert des sacrifices dessus. Celui qui mange un peu plus que d'habitude. Donc c'est bien de manger vendredi. Alors c'est bien de manger un peu avant Hatsot, comme ça on mange bien vendredi soir, avant la mi-journée, le matin de manger un peu plus que d'habitude. Ok ? Il y a que c'est faire une chose au matin, tu vas t'appeler, ça je passe. On dit c'est faire Torah, c'est faire Torah. Celui qui offre un Sefer Torah le jour de Shavuot, et au kilo makri min har de Shavuot, maintenant on considère comme s'il a offert une nouvelle offrande à Dieu. Mutar yotzi o meshoy yahid shelo, on a le droit de le sortir dans la rue. Un Sefer Torah, la synagogue. On a le droit de le sortir dans la rue avec. On a le droit de le sortir dans la rue. Oui, je vais baser sur mitzvah parce que c'est mitzvah. Donc j'ai écrit au beau Betangeset, et c'est bien de lire un petit peu, ne serait-ce qu'un pasouk, à Shavuot. Ok, histoire de dire qu'on l'a pas senti pour rien dans la rue. D'accord. Donc Ishalei Hashabbat Torah Biyom Erhag aussi, faut s'activer d'étudier la Torah Shavuot. Comme on a dit, Yom Tov c'est moitié pour Dieu, moitié pour nous. Moitié on mange, on dort et l'autre moitié ben, on étudie. D'accord. Ou bien Ishliazir et Amot Shulei Aviru et Yom Hashina. Faut pas passer toute la journée à dormir. Bien sûr, après la veillée, on a le droit de rentrer dormir un peu, mais pas parce qu'on a fait la veillée que c'est une raison pour dormir toute la journée et qu'on n'étudie pas. Non, on se repose un peu et après, il faut étudier. Non, si ça devient un prétexte, parce qu'on n'a on a pas dormi 3 heures la nuit, alors c'est un prétexte pour dormir 15 heures la journée. Non,
mais si tu sais que tu vas dormir quand il arrive, si tu fais, parce que tu fais la veillée.
Tu dors 3 heures, 4 heures. Ah, si tu sais que tu vas dormir toute la journée et tu ne vas pas étudier, ne fais pas la veillée.
Étudie avant la veillée.
On a l'habitude de lire les Hazarot. Bon, après, lui, il dit c'est mieux de lire Sefer HaMitzvot, mais bon, on a l'habitude de nous faire les Hazarot. C'est bien aussi de lire les Télim à Shavuot. Qui viendra donner David Amelech Katabi en Hajwa, parce que David Amelech, il a quitté ce monde le jour de Shavuot. Donc il a une Torah particulière avec les Télim. Elle peut s'écouter que les autres jours, les Télim à Shavuot. C'est bien de trouver des Hidushim. D'accord, le jour de Shavuot, dans les propos des Rishonim. Tu lis le Rambam, le Roche, et tu trouves un Hidush comme ça. C'est bien ça. C'est un bon signe, c'est un simatov de trouver un hidouche le jour de Shavuot. Par contre, sinon on n'est pas à ce niveau de trouver des hidouches, on n'est pas en train d'écrire des livres de hidouches, on n'a pas cette capacité. Et j'ai Shmoa Hidouche le Hadar Kodem, alors il faut s'activer d'écouter ou de lire un hidouche qu'on n'a pas entendu auparavant à Shavuot. Et comme ça aussi, c'est un bon simat, c'est un simatov d'écouter quelque chose qu'on n'a pas écouté à Shavuot. Okay?